Jacques 1, 5. Ça peut être utile de temps en temps, non? Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse, non? Ça peut être utile, hein? C'est une belle promesse, ça, quand même. Il y a bien des situations, on ne sait pas trop quoi faire, où aller. Ben, on peut demander à Dieu cette sagesse. Si tu pouvais mettre le... Alors, c'est le numéro 10. Si tu pouvais mettre uniquement la référence biblique, parce que je vais les faire chercher un petit peu, quand même, pour travailler un peu. Ah, d'accord. OK, la neuvième, c'est Jean 14, 2, 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. C'est pas sympathique, ça? Hein? C'est pas une belle promesse? Elle est formulée ici de cette manière-là. On la trouve dans d'autres formulations, mais voilà, la promesse, l'engagement, hein, de nous préparer une place et de revenir nous prendre et d'être toujours, 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 toujours avec lui. Nous sommes déjà toujours avec lui, mais là, on sera, on peut dire, physiquement. On le verra. La huitième. La huitième. Ah. Ah, tiens, psaume 37, 4. Allez. C'est bien, Volga. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas mal, ça, quand même, hein, aussi. En même temps, il faut comprendre ce que ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices, vous voyez. On veut bien que le Seigneur réponde à nos désirs, mais... Il faut que nos désirs correspondent déjà aux siens, hein, et qu'ils soient l'objet de nos délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. La septième promesse, elle était dans le top 10 là, pour vous, non? Vous n'avez pas encore fait, mais vous pouvez travailler. C'est un petit exercice que vous pouvez faire pendant les vacances, vous voyez. Un petit devoir de vacances. Hébreux 13, 5. Ah. Non. Ah, c'est pas loin. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, 5. Ça aussi, c'est utile. Des fois, on a le sentiment d'être abandonné au travers des circonstances que l'on vit, notamment. Et Dieu dit lui-même. Alors, il rappelle une promesse que Dieu avait déjà faite, notamment à Jacob. Dieu avait dit à Jacob, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ça pour les chrétiens. Il leur redonne cette promesse en disant « Sachez ce que Dieu a dit ». Et il l'applique bien évidemment aux chrétiens. Et à nous aujourd'hui, elle est importante, cette promesse de Dieu. La sixième. Jean 3, 36. Ah, vous attendez Jean 3, 16, hein, j'imagine. C'est trop facile. Jean 3, 36. Ah, vous ne trichez pas, hein, vous ne regardez pas dans votre Bible, hein. Ou sur votre téléphone, discrètement, c'est sur le téléphone, vous voyez, mais il y a la Bible sur le téléphone maintenant, alors. Allez, vas-y. C'est essentiel, hein. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est pas une belle promesse, ça, la promesse du salut, justement, pour tous ceux qui croient. Elle est déjà concrétisée, réalisée, expérimentée dans notre vie pour nous qui croyons. En Christ, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La cinquième promesse. 1 Jean 1,9. Allez, allez. Si vous confessez vos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est vrai, il s'adresse à des chrétiens. Hein, parce que de temps en temps, ça nous arrive quand même. Non, rarement, jamais. Si vous dites jamais, vous êtes menteur. Hein. C'est ce que Jean dit, de toute façon, dans le même texte. Donc, effectivement, c'est une belle promesse, savoir que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, hein, pour nous pardonner. et nous purifier de toute injustice. On est à combien là? Je ne sais plus. 4. Ah! Ésaïe 54, 10. Non, nos pensées. Ouais, ça, mais c'est dans Ésaïe, effectivement. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes, on aurait pu le chanter. On aurait pu la chanter, cette promesse. Quand les montagnes s'éloigneraient, bien évidemment, on parle de l'amour de Dieu qui reste le même. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. A écrit un merveilleux cantique qu'on chante encore aujourd'hui. Ça, c'est la... Alors, le top 3. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous avez un top 3 dans les promesses de Dieu, vous? Je vous donne les miennes. Philippiens 4, 19. Ah! Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Là aussi, hein? Top 2. Philippiens 6. Tiens, c'est encore dans Philippiens. Voilà. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Commence une œuvre, il la termine. Important, hein? Peut-être que vous êtes justement entre les deux, une œuvre qui a commencé mais qui n'est pas terminée. S'il a commencé, il la terminera. D'accord? Quelle qu'elle soit. Et puis là, première, Romains 8. Pourquoi t'as mis bis? Non, c'est la même, c'est des versions différentes. Oh, c'est trop tard. Allez. Romains 8, 28, que vous connaissez par cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein ou encore la version. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan ou encore. Nous savons encore une chose, Dieu a fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet. Elle n'est pas belle cette promesse? Je ne sais pas, en ce moment je la mets au top là. Après, on peut changer, mais particulièrement quand je vois ce que certains d'entre vous vivez, je sais que ça, cette parole, c'est celle qui apporte le plus de réconfort. Savoir que Dieu agit dans ces moments-là, cette promesse, elle nous révèle en fait, elle nous place du côté de Dieu, on peut dire. Et nous donne une perspective ou un point de vue différent d'une autre. Parce que nous avons notre perspective lorsque nous sommes face aux circonstances, aux événements de la vie. On voit les choses de notre point de vue. Mais cette promesse-là, et Dieu au travers de cette promesse, veut nous placer dans sa perspective. Comment lui voit les choses? Comment lui les considère? C'est comme si Dieu nous disait... Lorsque tu es face à une circonstance difficile, je t'invite à venir de mon côté pour voir les choses comme moi je les vois. Voyez, c'est vraiment un acte de foi que nous faisons. Parce que de nous-mêmes, on ne les voit pas comme ça. On n'a pas l'impression que ça se passe comme ça. Et Dieu nous dit, viens et rejoins-moi dans ma perspective ou mon point de vue. On a une perspective humaine des choses de la vie. Et Dieu nous amène à voir cette perspective divine, en fait, hein, et donc spirituelle. La perspective divine, enfin, la perspective humaine, elle est forcément naturelle, elle est familière, elle nous est familière, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est comme ça qu'on réagit par rapport aux situations. Mais la perspective divine, au travers de cette promesse, elle doit devenir aussi naturelle, en fait. Et je sais qu'elle est naturelle chez certains, parce que c'est leur premier réflexe. Quand ils sont par rapport à une situation, ils disent, ouais, oui, mais... Je sais que Dieu peut faire concourir toutes choses pour mon bien. Ce qu'on va regarder autour de cette promesse, parce qu'il y a bien des choses qu'on peut dire, et c'est pas la première fois même que j'en fais voilà, un sujet de méditation avec vous, mais on va regarder cette promesse de la manière suivante ce matin. Si tu peux mettre le plan. On va voir comment cette promesse qui est donnée par Paul ici, elle est confirmée par l'expérience. Et comment Dieu utilise toute chose, comme il est dit ici, sans exception. Et on verra quelques exemples bibliques. On a la promesse qui est confirmée par l'expérience. Vous connaissez l'équivalent de cette promesse dans l'Ancien Testament ? Quel est l'équivalent de cette promesse dans l'Ancien Testament ? Dans d'autres mots. Oh, 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 oh. C'est trop dur ! Vous connaissez en plus. L'équivalent de cette promesse dans l'Ancien Testament, elle a été donnée par Joseph. Quand il a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal ». Mais Dieu a changé le mal en bien. C'est pas la même chose ? Forcément que c'est la même chose. Joseph, lui, il a souffert à cause de ses frères. Ses frères l'ont trahi, l'ont blessé, l'ont humilié, l'ont rejeté. Enfin, c'était terrible quand vous êtes dans une famille, que vous avez toute votre famille qui se tourne contre vous. En tout cas, ici, c'était tous ses frères et ils étaient nombreux. C'est terrible. C'est déjà terrible quand vous avez des gens à l'extérieur qui vous rejettent, mais quand c'est votre propre famille. Et c'est ce que Joseph a vécu. Il a souffert dans sa chair. Et à cause de cette trahison, à cause de ce rejet de la part de ses frères, il a connu l'exil, l'esclavage, la prison. Et il dit à ce moment-là, à ses frères qui viennent le voir, parce que leur père vient de mourir, et ils se disent, oh ben si, s'il a été gentil avec nous, c'est à cause de notre père. Mais maintenant que le père n'est pas là, oh là là, il va se venger. Et c'est là que Joseph leur dit, non, non, oui, vous aviez médité de me faire le mal. Oui, vous m'avez fait du mal. Il n'est pas dans le déni, là. Il n'est pas en train de dire, non, je n'ai pas souffert. Non, non. Non, non, il ne refoule pas, là. Il sait. Il reconnaît qu'il a souffert. Et il en parle, cette souffrance. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Seulement, ce mal-là, Dieu l'a transformé. Dieu n'appelle pas le mal bien et le bien mal, mais il dit, le mal, il le prend et il le transforme. Cette trahison, cette haine, cette jalousie, cette amertume que vous aviez contre moi, qui vous a amené à faire tout ce que vous avez fait, eh bien, Dieu a pris cela. Pour mon bien. D'abord pour Joseph, pour sa transformation. Parce que qu'est-ce qu'il a été transformé au travers de cela, c'est sûr. Il n'était plus le même homme. Pour le bien de la famille aussi, parce que ça a permis aussi à cette famille d'être sauvée de la famine à un moment donné. Et pour bien évidemment le plan de rédemption, puisqu'au travers de cette famille, Dieu avait un plan. Et ce plan aurait pu être mis en cause, bien sûr, s'il y avait eu la famine, s'ils étaient morts de faim. Donc, Dieu a agi à ce moment-là, et c'est ce que Joseph reconnaît. Et la force de cette conclusion, de cette deuxième partie de la vie de Joseph, puisque la première partie, il était chez lui, la deuxième partie, il était donc en exil, et après, il va être avec sa famille en Égypte. Et donc, à la fin de cette deuxième partie de sa vie, la conclusion, c'est de dire, voilà, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. L'apôtre Paul, quand il dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, s'il dit cela, c'est aussi à partir de son expérience. Parce que Paul, dans son expérience, on le sait, a connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Et lui-même va en faire la liste lorsqu'il va écrire la deuxième lettre aux Corinthiens. Et quand vous regardez cette liste, elle est quand même très, très impressionnante. Vous dites, mais un seul homme a pu supporter tout cela ? Vous connaissez la liste de 2 Corinthiens 11 ? On va la regarder. Je vais regarder de près. Alors, il répondait parce qu'il y avait quand même des gens qui contestaient son ministère et qui séduisaient des chrétiens de Corinthe. Donc c'est la raison pour laquelle il a écrit cette deuxième lettre. Et il dit, voilà, il pose la question, verset 23 de 2 Corinthiens 11, sont-ils serviteurs de Christ ? Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. Et là, après, donc souvent en danger de mort, il y a une autre liste qui arrive. Souvent en danger de mort, verset 24, battu de 40 coups, moins un. Ça, c'était par les Juifs. Battu de fouet, alors, 40 coups, moins un, 5 fois quand même. Une fois, ça peut suffire, hein. 5 fois. Battu de fouet, ça c'est la justice romaine, 3 fois. Lapidé, une fois. Vous savez, la lapidation, c'était pas une petite punition comme ça, c'était un châtiment capital, vous voyez, c'était une peine capitale. Généralement, vous n'en sortiez pas vivant de la lapidation. C'était l'équivalent de la guillotine ou la chaise électrique, vous voyez. Et lui, il en est sorti vivant. Mais dans quel état ? Lapidé, une fois. Naufragé, 3 fois. En d'autres termes, ne prenez jamais le bateau avec Paul. Ça se termine toujours mal. 3 fois. La croisière avec Paul, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Vous voyez un peu, souvent en danger de mort. Voilà ce qu'il a connu, Paul. La flagellation, 8 fois en tout. La lapidation, une fois. Et 3 fois naufragé. C'est pas fini, hein ? Vous pensez que ça suffit, non ? Je veux dire, si nous, on avait... Simplement, vous prenez quoi, là, dans la liste ? Rien ? Vous voulez pas vous servir ? C'est gratuit, c'est... Qu'est-ce qu'on prend, hein ? Non, vous prenez rien ? Si on avait seulement une fois ce qu'il a eu... On passerait peut-être pour un héros, vous voyez, on dirait, ah, on parlerait ça à tout le monde, toute notre vie, j'ai fait un naufrage, voilà, on raconterait notre naufrage à tout le monde, partout où on passerait. Paul, lui, il a connu tout ça. Et dans une courte période, en fait, parce que là, il était plutôt à la fin de son ministère quand il écrit cette deuxième aux Corinthiens, et il a connu ça dans une période peut-être de 15 d'années. Ensuite, souvent en voyage, voilà, souvent en voyage, ça c'est pas désagréable ça, hein. Vous allez partir en voyage aussi, mais avec Paul, quand il était en voyage, c'était ça, vous voyez, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, comme ce fut le cas à Corinthe, et au danger de la part des païens. Il dit que ce soit les Juifs, ils lui en ont voulu. Il allait souvent dans les villes pour annoncer l'Évangile, et puis c'est les Juifs qui se mettaient contre lui. Donc ses compatriotes, et puis aussi la part des païens, bien évidemment, il va souffrir aussi à cause de cela. Donc dans ses voyages, c'était des voyages missionnaires, bien sûr, c'était l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait donnée. Voilà ce qu'il peut dire sur cette partie-là. Ensuite, encore, c'est pas fini. En danger dans la ville, au danger du désert, au danger de la mer, et au danger parmi les faux frères. On se pose la question, où est-ce qu'il n'était pas en danger ? Partout où il allait, il était en danger, Paul. C'était sur la mer, c'était dans le désert, c'était dans les villes, c'était même dans les églises, parce que dans les églises, il y avait les faux frères. Quand Paul parle et dit tout concourt ou bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un homme qui a vécu quelque chose, vous voyez. Quand il raconte, il y a une tempête qui nous est racontée dans le livre des Actes, quand il était sur le chemin de Rome, et il y a eu un naufrage. Il avait même été averti par Dieu, il avait averti l'équipage, et il va avoir 3 semaines de tempête dans la Méditerranée, et puis à la fin... Le bateau va s'échouer et ils vont arriver à l'île de Malte. Et là, quand ils arrivent à l'île de Malte, après donc toute cette tempête, ce naufrage, ils étaient certainement trempés, fatigués, épuisés, ces nuits sans sommeil. Et ils arrivent. Et puis les Maltais sont quand même très hospitaliers. Ils ont fait un feu pour les réchauffer, leur donner la nourriture, enfin, ils ont fait le maximum. Et puis Paul a voulu aider à un moment donné, alimenter le feu, il a pris des broussailles, et puis hop, il se fait mordre par un serpent. Allez, il n'a pas de chance, lui. Hein. Il s'en tire sain et sauf, miraculeusement, de ce naufrage, mais une heure ou deux après, il se fait mordre par un serpent. Vous voyez, les Maltais, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Oh là là, ça va être un sacré criminel, celui-là, parce que Dieu, il veut vraiment pas qu'il échappe. Hein. » Il a failli échapper là, mais Dieu dit « Non, 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 non. Hein, tu vas mourir, tu vas être condamné. » Donc, il s'attendait à ce qu'il meure. Hein. Il venait d'être mordu par un serpent, et le temps a passé, puis il n'y avait rien. Puis Paul a fait comme s'il n'y avait rien. Il a secoué sa main, et puis il a continué. Puis au bout d'un moment, ils ont dit « Mais le venin n'a aucun effet sur lui. Mais, voilà, mais c'est pas un criminel, c'est un dieu. » Vous voyez, avec Paul, quand il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », Paul savait, il parlait à partir de son expérience. Parce que ses voyages ont été des voyages mouvementés, toutes sortes. On comprend pourquoi Marc, il a laissé tomber au premier voyage. Il a dit « Non, ça va, je rentre. » Parce que là, dès qu'on va quelque part, on est en danger. Hein, moi, je ne supporte pas. Donc, il est rentré chez lui. Après, quand il a voulu revenir avec Paul, ça s'est pas très bien passé. Mais on peut comprendre qu'il est craqué, Marc. Il se dit « Mais comment on peut faire ?» Celui qui a écrit toutes choses, que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, c'est ce Paul qui a vécu tout cela, en fait. Et lui, il voyait, il se mettait du côté de Dieu. Il disait, voilà ce que Dieu a fait. Dans ces situations-là, Dieu était aussi présent. C'est son expérience. Et c'est cette expérience-là qui donne du crédit à cette parole. Vous savez, quand on a vécu quelque chose, ce qu'on va dire sur un domaine, ce domaine particulier par rapport à ce qu'on a vécu, ça va avoir beaucoup de poids. C'est pour ça que je voulais... Vous avez vu la photo de Corrie ten Boom, cette femme néerlandaise qui a été arrêtée par la Gestapo avec une partie de sa famille, et notamment sa sœur. Elle s'est retrouvée dans un camp et dans ce camp, l'un des gardiens a tué sa sœur, a assassiné sa sœur, et elle a vécu quelque chose d'horrible. Mais après, un beau visage, hein, Corrie, je crois qu'elle est morte en 85, 83. Et après, c'était une chrétienne, elle avait vécu le pardon de Dieu, donc... Après cette expérience, elle parlait de ce qu'elle avait vécu dans les églises, elle partageait, puis elle partageait beaucoup sur le pardon, parlait beaucoup du pardon. Et elle a fait ça un certain temps, et puis un jour, dans cette conférence ou cette réunion qu'elle faisait, il y a un des bourreaux, celui qui avait tué sa sœur, qui était là dans la salle. Lui, il ne l'avait pas reconnue. Elle était une parmi tant d'autres. Mais elle n'avait jamais oublié son visage. Elle connaissait son visage. Donc cet homme est venu, cet ancien nazi, il est venu, il s'est approché devant. Et lui, il a entendu son témoignage, ce qu'elle a dit. Donc il s'est approché devant et puis il lui a dit « J'ai été touché par votre message, ce que vous avez dit concernant votre expérience. » J'ai commis moi-même beaucoup d'atrocités pendant la guerre et j'aimerais symboliquement vous demander pardon pour tout le mal que j'ai commis. » Il ne savait pas qu'elle était la sœur de cette femme qu'il avait assassinée sous ses yeux. Et lui s'est retrouvé, elle s'est retrouvée face à ce bourreau. Et là, il y a eu un moment, parce que c'était... déjà un grand pas pour elle de dire « Je pardonne à mes bourreaux » de manière générale. Et c'est ce qu'elle disait. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Mais là, se retrouver face à face, vis-à-vis de celui qui avait tué sa sœur et qu'elle connaissait. Et elle raconte qu'elle a prié à ce moment-là, quand elle a vu cet homme qui demandait pardon sans savoir qui elle était, qu'elle était la sœur d'une femme qu'il avait... assassinée, et elle dira « Seigneur, Je ne peux pardonner de moi-même, mais toi, tu peux m'aider. Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre ma main. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va tendre sa main. Elle va saisir alors la main de cet homme et au même instant, elle raconte qu'elle a senti l'amour de Dieu se répandre dans son cœur pour cet homme. C'est miraculeux. Alors vous voyez, quand cette femme parlait du pardon de Dieu et que vous connaissiez son histoire, c'est vous voyez, le poids que ça avait. Quand les gens entendaient ça et elle pouvait raconter ce qu'elle avait vécu, et notamment dans cette réunion particulière, lorsqu'elle s'était retrouvée face à ce bourreau, parler du pardon de Dieu, ça avait un sens. C'était la même chose pour Paul. Quand il dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, quand Paul dit cela, c'est un Paul qui a vécu tout ce qu'on a. Et encore, c'est qu'un échantillon, ça, c'est pas exhaustif comme liste. La même chose avec Nelson Mandela. Vous connaissez bien sûr cet homme et ce qu'il a vécu, 28 ans de prison. Et en sortant, alors qu'il aurait pu se venger, il a pardonné lui aussi. Il avait toutes les raisons de ne pas le faire. Et il va le faire. Quand ces gens parlent à ce moment-là du pardon, ce n'est pas de la théorie, hein, ce n'est pas que des mots. C'est une réalité pour eux. Je pense à John Newton qui a écrit ce chant, cet hymne venu de très célèbre, Amazing Grace, la grâce étonnante. Au son si doux, dit-il, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. Quand il dit... Dans ce chant, il dit « La grâce de Dieu qui a sauvé le misérable que j'étais. » Ce n'était pas que des mots pour lui. Il sait à quel point il avait été misérable. Il avait travaillé comme négrier sur les bateaux entre l'Afrique et l'Europe pour amener des esclaves. Il faisait du trafic d'esclaves. Il était esclavagiste. Il avait vécu comme cela. Jusqu'au jour où il s'est converti, il a changé, il a même lutté contre l'esclavage. Quand il dit « Grâce étonnante au son si doux qui sauva le misérable que j'étais », il sait à quel point il était misérable. Il sait à quel point. Ce n'était pas qu'un mot pour lui. Il connaissait sa misère, il avait vu sa misère. Il s'était rendu compte de ce qu'il avait fait, le mal qu'il avait fait. Et comment Dieu l'avait sauvé, lui avait fait grâce à lui aussi. Ce n'était pas que des mots. Donc vous voyez, quand Paul dit... Dans Romains 8, il parle de la souffrance dans Romains 8. Hein. C'est dans Romains 8 qu'il dit, par exemple, il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien. J'estime, au verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il parle des souffrances, il parle même des souffrances de la création. Et puis il parle ensuite des souffrances... de ceux qui sont persécutés. Et c'est là qu'il dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui nous justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il parle là. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. Ils parlaient à partir de leur expérience. C'est pour cela, et Paul dit dans ce verset, dans cette promesse, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de mots qui sont importants là. Il y a toute chose, il y a concourir, Dieu fait coopérer à notre bien, définir ce qu'est le bien, et ceux qui l'aiment. Donc c'est spécifique là pour ceux qui ont une relation avec lui, ceux qui sont déjà dans cette relation, ceux qui ont reçu cette grâce, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui ont été aimés de Dieu et qui savent qu'ils sont aimés de Dieu. On va s'arrêter surtout sur ces deux mots, toute chose. Toute chose. Toute chose. Ça veut dire quoi, ça? Il ne dit pas, nous savons du reste que certaines choses, ou les bonnes choses, non, il dit toute chose. Ça veut dire y compris les mauvaises, les pires même, celles qui n'ont aucun sens pour nous. Il utilise ce mot, toute chose, un mot qu'on utilise souvent, nous. Je ne sais pas, j'imagine que, prenons l'exemple qu'il y ait un journaliste qui soit là parmi nous pour faire un article sur cette église, le culte dimanche matin, et qu'à un moment donné, le pasteur dise, voilà, j'invite l'auditoire à se lever pour chanter, et tout le monde se lève, sauf une personne, peu importe la raison, mais sauf une personne. Et tout le monde se lève. Il est probable que quand ce journaliste va écrire son article, il va dire, voilà, à un moment donné, le pasteur s'est adressé à la congrégation, à l'assemblée, pour l'appeler à se lever, afin de chanter d'un cantique. Et d'un seul homme, toute l'assemblée s'est levée. Il est probable qu'il ne va jamais mentionner la personne qui ne s'est pas levée. Pour lui, c'est toute l'assemblée. Nous, d'une manière générale, c'est comme ça que nous parlons. Quand il y a une large majorité pour quelque chose, on dira, ah, ben, ils sont tous venus. Ils étaient tous là. Où ils ont tous ri, ils se sont tous amusés, même s'il y en a un ou deux qui ne sont pas vraiment amusés, mais on va parler comme ça. Alors, le fait que l'on parle souvent comme ça, on pourrait penser que quand Paul dit que Dieu fait concourir toutes choses, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est tout, mais bon, de manière très globale. Mais il y a des exceptions quand même. Ah, c'est pas toute chose véritablement. On peut avoir ce sentiment-là face à cette parole de Paul. Alors que Paul, quand il dit toute chose, je peux vous garantir, il dit vraiment toute chose, sans exception. Il n'y a pas une seule exception. Et c'est important qu'il n'y ait pas une seule exception. Pour Paul, il incluait toute son expérience, la prison, les naufrages, la trahison des frères, le froid, la nudité, enfin, tout ce qu'il a pu connaître, tous les dangers qu'il a pu connaître. Pour Paul, c'était toute chose. Ce n'était pas toute chose sauf une. Parce que s'il y en a simplement une exception, vous savez ce qu'on va faire? On va penser que nous, on est l'exception. Alors on dira, oui, de manière générale, mais pas là, pas dans ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible dans ce qui m'arrive. C'est impossible. Non, Paul dit toute chose. Dieu peut utiliser toute chose. Nos amis. Là, c'est pas gênant. Hein. Quand il utilise nos amis, on se dit, ah oh, ouais, c'est bien. Mais nos ennemis aussi. Aussi. Les frères qui trahissaient Paul reconnaissait que Dieu pouvait faire concourir cela pour son bien. Ses persécuteurs. Toute chose, ce qui arrive à cause de notre faute ou qui n'est pas notre faute. Toutes choses, celles qui sont favorables comme celles qui ne sont pas favorables. Toutes choses, celles qui sont là suite à nos décisions, à nos bonnes décisions, mais celles aussi qui sont là à cause de nos mauvaises décisions. Dieu n'est pas limité. Ce qu'il y a derrière, bien sûr, ce genre de promesses et de paroles, c'est la souveraineté de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Ce Dieu qui règne sur toutes choses. C'est ce qu'on voit bien des fois dans l'histoire biblique, de quelle manière Dieu a renversé les situations. Dieu a pris les choses en main et a montré qu'il était là et qu'il pouvait faire concourir toutes choses, comme on le voit dans l'histoire de Joseph, par exemple. Il faut se mettre à la place de Joseph pendant des années. Ça n'a pas duré 15 jours, vous savez. Ça a duré des années, cette humiliation, ce rejet, cette descente, on pourrait dire, aux enfers. Ça a duré des années. Lui, dans sa perspective à lui, d'être humain, lui, c'était fini. La perspective divine était différente. Comment Dieu renverse les choses ? Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait vraiment ce qu'il veut. Vous savez, s'il a pu faire parler une ânesse, vous avez souvent entendu parler des ânes. Quel est le vocabulaire d'un âne? C'est toujours le même, hein? Il n'y en a pas plus? Imaginez la tête de Balaam quand il a entendu son ânesse et qui ne se limitait pas à ces deux mots « i-an ». Et quand l'ânesse lui a dit « Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça ?» J'ai l'impression que si les âmes pouvaient parler, c'est souvent ça qu'ils diraient à leur maître. Heureusement qu'ils ne parlent pas, parce que ça serait toujours le même refrain. Pourquoi est-ce que tu me tapes dessus comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu était capable. Dieu voulait dire quelque chose à Balaam qu'il ne voulait pas entendre. Il essayait de bien des manières, il ne voulait pas entendre. Si tu ne veux pas entendre, ben tiens, je vais te faire parler à un âne, tu vas voir. Vous voyez comment Dieu règne sur toute chose. Apparemment, ça s'est passé qu'une seule fois, ça. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Quand Dieu a transformé un poisson en taxi. C'était ça. Alors, je ne sais pas si c'était un VTC ou un Uber, Pop. Je ne sais pas du tout. Il ne faut pas trop le dire au taxi, ça. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Parce que lui, il allait dans cette direction-là. Dieu lui dit non, c'est dans cette direction-là. Donc, le poisson, lui, va te ramener dans cette direction-là. Ça va être un taxi. Dieu utilise toute sa création. Qu'est-ce qu'il y a après? Les corbeaux pour Élie. Hein? Je ne sais pas s'il venait de Leclerc ou de Carrefour. Mais c'est pas mal, hein? Ce n'est pas leur habitude. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le fer qui flotte. Ça, ce n'est pas les lois de la physique qu'on connaît, hein? Et vous connaissez le contexte. Comment Dieu a renversé la situation pour ce fils de prophète. Oh, la liste. La gueule des lions fermée. Pas mal, ça. Parce qu'en général, quand on les jetait dans la fosse, c'est genre de châtiment. Chez les Babyloniens, c'était aussi une peine capitale, là. Ils exécutaient un condamné, et puis en même temps, ils nourrissaient des lions. Ils faisaient une pierre deux coups. Et pour Daniel, le prophète, ça s'est passé autrement. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis Daniel dans la fournaise. Pareil. Ceux qui les ont mis dans la fournaise sont morts. C'était tellement chaud. Ils avaient monté, je crois, 7 fois. Hein? 7 fois. Ils avaient pris des risques. Hein? Ils auraient pu faire exploser là. Hein, la chaufferie, là. Mais ceux qui sont allés à l'intérieur, eux, ils étaient intacts. Et même quand ils sont sortis, il n'y avait même pas d'odeur de fumée, de feu. C'est désagréable quand même. Hein? Vous faites un feu comme ça, vous sentez un peu trop. Dieu n'a même pas permis qu'il ait la moindre odeur de leur vêtement. Ou encore? Ah, celle-là, je l'aime bien, moi. J'aimerais bien que ça se répète plus souvent. Hein. J'irai à la pêche, moi, du coup. Je crois que je deviendrai un pêcheur devant l'Éternel. Vous imaginez ça? devait payer un impôt et Jésus dit à Pierre, allez, va pêcher là. Tu vas trouver une pièce, ça te servira. Il y va, c'est un spécialiste. Pierre, il savait pêcher, lui, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Donc c'est pas difficile de prendre un poisson, mais de prendre un poisson dans lequel il y a la pièce de monnaie qui va servir à payer l'impôt, on aimerait bien, hein? Peut-être certains diraient, c'est pas un poisson Saint-Pierre qu'il me faut, moi, c'est une baleine avec beaucoup de pièces de monnaie. Une question que je poserai à Pierre quand je le verrai, qui n'est pas dit dans le texte. Je lui demanderai, Pierre, quand tu as trouvé la pièce dans le poisson là, que tu as pris, comme Jésus t'avait demandé, qu'est-ce que tu as fait du poisson? Tu l'as mangé ou tu l'as rejeté à l'eau? Vous ne croyez pas qu'il méritait d'être rejeté à l'eau, le poisson, quand même? Il avait si bien travaillé. Je reviendrai l'année prochaine, quand j'aurai la feuille d'impôt. Et puis là, tu pourras faire en sorte d'en avoir plus qu'une. Toutes ces situations montrent, et alors bien sûr on prend ça un peu avec le sourire, mais c'est aussi pour nous montrer, parce que certains vivent des situations difficiles. Et quand on regarde les choses de notre perspective, on a le sentiment qu'il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Parce que c'est le mal, parce que c'est la souffrance, parce que comme pour Joseph, c'est la trahison, c'est l'amertume. Ou comme pour Corrie ten Boom, c'est le malheur, c'est la catastrophe, c'est une sœur qui est tuée, c'est Corrie qui est arrêtée, qui vit dans un camp avec toutes les atrocités qu'elle a connues. Enfin, il n'y a rien de bon dans tout ça. Il n'y a rien de bon. Et Paul dit, moi je peux vous dire, à partir de ce que j'ai vécu, que Dieu est encore là et qu'il peut faire concourir toutes choses pour notre bien. Quelle que soit cette chose, quelle qu'elle soit. Vous mettez tout ce qui arrive, tout ce qui peut vous arriver. Pour notre bien, alors bien sûr, quand il parle de notre bien, attention, je ne sais pas quelle est la définition du bonheur que vous avez. Pour beaucoup de gens, la définition du bonheur, c'est vrai, c'est partir en vacances très loin, sur une plage, et puis ne plus rien faire, et être heureux avec ses amis, sa famille. Pour Paul, quand il parle du bien, on pourrait dire du bonheur, c'est de dire, car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Prioritaire, le premier. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous donner, mais la chose qui est au-dessus de tout le reste, c'est cela. Quand il parle de Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien, ce bien dont il parle, il le définit dans le verset qui suit. C'est d'être rendu semblable à Christ. C'est d'être comme Christ. On a le désir d'être comme Christ. On veut être comme Christ. On voit Christ et on se dit, mais si seulement je pouvais réagir comme lui, si je pouvais aimer comme lui, si je pouvais pardonner comme lui, si je pouvais supporter comme lui, si je pouvais avoir la même patience que lui. On sent tout cela. Et Dieu dit, c'est à cela que je travaille. C'est pour ça que j'utilise tout cela. Et avec tout ce que je peux faire au travers de ce qui vous arrive, c'est dans le but que vous deveniez semblable à moi. Vous soyez comme moi. Ça, c'est le but. Le projet de Dieu, c'est un projet de salut, de restauration, de réparation totale. Alors, dans cette réparation, il y a la justification, il y a le pardon, il y a ce que Dieu nous a donné, celui qui croit à la vie éternelle. Et puis, il y a aussi la sanctification, la ressemblance à Christ. Ça, c'est au niveau de notre caractère, notre personnalité, notre vie intérieure. Et là, c'est beaucoup plus long. Et ça ne sera jamais définitif. Mais Dieu travaille cela, comme ça a été le cas pour Joseph. C'était un autre homme à la fin, après cette expérience, capable de pardonner à ses frères. Il n'a pas fait seulement parce que son père était là, il l'a fait vraiment du fond de son cœur Et il leur a dit non, non, voilà comment Dieu m'a changé, comment Dieu m'a transformé et le bien que j'ai reçu, cette ressemblance avec Christ. Ses frères pouvaient en bénéficier à ce moment-là. On va terminer avec une parole dans le psaume certainement que vous connaissez le mieux, qui est le psaume 23. Vous connaissez ? Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient le réciter par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va s'intéresser à cette phrase-là dans le psaume. Quand David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ou dans d'autres versions, « Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. » Vous voyez l'image là ? Elle est forte, hein ? « Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. » C'est extraordinaire cette parole. Bien sûr, généralement, quand on parle du psaume 23, on s'intéresse surtout à la première partie, vous voyez. Je ne manquerai de rien quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, vous voyez, et on a raison. Mais il y a cette phrase-là, elle est extraordinaire cette phrase. Quand David dit, il dit « Mais Seigneur, avec toi, voilà ce qui m'arrive. Je suis environné d'adversaires, j'ai des tas de choses qui sont contre moi. Et toi, tu dresses une table. » La table, ça parle, ça vous parle la table, hein, j'imagine. Ça parle de quoi ? Ça parle d'abondance. Ça parle de partage, de relations. Toutes choses qui sont bonnes et essentielles dans la vie de quelqu'un. Et David dit, mais Seigneur, grâce à toi, maintenant, quand je suis environné dans ces circonstances difficiles, voilà ce que tu fais, tu dresses pour moi une table. Tu as pour moi quelque chose. Tu m'apportes quelque chose à ce moment-là. Tu me donnes quelque chose. Tu dresses une table. Tu me donnes à ce moment-là la paix dont j'ai besoin, la sagesse si j'en ai besoin, la patience si j'en ai besoin, la possibilité de pardonner si c'est nécessaire. Enfin, tout cela, c'est sur la table. La table qui est dressée, c'est avec tout cela, bien évidemment. Tout ce qui nous est nécessaire par rapport à ce qui s'oppose à nous, qui essaye de nous détruire, ces événements, ces circonstances qui sont là et qui sont douloureuses et qui nous font pleurer, qui nous font... Là, qui nous amènent à nous plaindre parfois, à ne plus savoir où on en est. Dieu dit, je mets devant toi une table. Cette table, elle est là, elle est dressée. Elle n'est pas vide, ce n'est pas juste un plateau. Il y a quelque chose dessus qui est pour nous nourrir, pour nous donner ce dont nous avons besoin dans ces moments-là. Je dresse une table. Cette table-là, elle est ici. Elle est dressée. Et on va y retourner. Sur cette table, il y a du pain et du vin. Ça veut dire quelque chose, ça. On sait ce que ça veut dire. Parce que si nous, on peut avoir une table qui est dressée, n'aie pas peur. Si une table peut être dressée pour nous, afin que Dieu fasse concourir toutes choses pour notre bien, c'est parce que Jésus, lui aussi, on lui a dressé une table. Et sur cette table, il n'y avait pas de bonnes choses, il n'y avait que des mauvaises choses. Et il a accepté cela. Il a vécu cela. Lui, il a, si... Pour que nous puissions manger, lui, il a accepté d'avoir faim. Pour que nous puissions boire, il a accepté d'avoir soif. Et c'est ce qu'il a dit sur la croix, j'ai soif. Pour que nous puissions être pardonnés, il a accepté d'être condamné. Lui, il a eu une autre table. Et c'est parce qu'il a eu cette table-là que nous avons. C'est pour ça que nous avons celle-ci. Et c'est pour ça que nous retournons à cette table. C'est pour ça que, déjà de manière prophétique, sans trop le savoir, David pouvait dire, Seigneur, tu dresses devant moi une table. L'histoire de la Bible, c'est ça. C'est Dieu qui a tout fait pour dresser pour nous une table, afin que nous puissions avoir ce qui nous est nécessaire. Dans ces situations de la vie, dans ces moments où on ne sait plus quoi penser, où les choses ne semblent même plus avoir aucun sens. Alors il a dressé une table. Cette table, elle est toujours dressée. Elle est toujours pour nous. Je ne sais pas quel nom il faut donner à votre ennemi. Ça peut être la maladie, ça peut être une circonstance difficile. Mais il y a une table qui est dressée. Et on va aller à cette table encore aujourd'hui. On va y retourner ensemble. Et on va y retourner, nous allons y retourner afin que dire, écoute Seigneur, voilà, tu pourvois pour mon bien. Tu sais ce que j'ai besoin aujourd'hui. Dans la situation dans laquelle je suis, dans les moments que je vis, eh bien, tu vas me donner ce qui est nécessaire. Sur cette table, il y a toujours ce qu'il faut. Il ne manque rien. Il y a toujours ce qu'il faut. On va prier ensemble. Seigneur, tu vois, pour ceux ce matin qui ont besoin d'une manière particulière de se rappeler que tu as dressé une table pour eux, Seigneur. Et comment tu as fait, Seigneur, pour qu'elle soit dressée et qu'elle soit pleine de bonnes choses qui nous sont indispensables pour notre vie. Nous avons tous besoin de cette table, Seigneur, à tout moment, mais dans certains moments de notre vie, Seigneur, c'est parfois quelque chose que nous oublions. Et tu veux le rappeler à ceux et celles qui peut-être l'auraient oublié ce matin. Parce que les circonstances sont telles, Seigneur, les événements sont tels, les souffrances sont telles qu'ils ont du mal à penser à cette table que tu as dressée pour eux. Alors tu leur rappelles ce matin que cette table, elle est dressée pour eux, en particulier, et qu'ils peuvent venir. Elle est pour eux. Il y a tout sur cette table. Cette table qui représente ta mort, ton sacrifice, Seigneur. Dans cette mort et ce sacrifice, il y a tout. Tout ce qui est nécessaire à notre vie, à notre restauration, à notre abondance, à notre prospérité, à notre bien, à notre santé. Il y a tout, Seigneur. Il ne manque rien. Seigneur, rappelle à celui ou celle qui en a besoin de manière particulière ce matin, que ce qu'il vit en ce moment ne t'échappe pas, n'est pas hors de ton contrôle. C'est la souffrance, c'est la douleur. Mais toi, tu es capable de changer le mal en bien et d'apporter quelque chose, Seigneur, de bon, de neuf, au travers de ce qui est vécu en ce moment. Et c'est pour eux que je te prie en particulier, Seigneur, ce matin. Tu vois ce que certains vivent. Je pense à cette famille qui est là, d'Ukraine. Tu vois les circonstances qui les amènent à quitter leur pays et à venir dans un autre pays. Ça n'est certainement pas de gaieté de cœur. Ce sont des circonstances, Seigneur, comme pour beaucoup encore aujourd'hui, Seigneur, qui vivent l'exil. Je te demande, Seigneur, de leur montrer que cette table, elle est dressée pour eux et qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour leur vie, pour leur bien, Seigneur, pour leur salut. La même chose pour toute autre personne aujourd'hui qui se trouve dans une situation qui est comme une impasse, Seigneur, et qui sont venus dans cet esprit, Seigneur, de découragement, peut-être même de colère, de révolte. Alors c'est là, Seigneur, que tu montres que cette table, elle est dressée pour eux et qu'ils peuvent venir encore aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu. J'invite ceux qui se sentent peut-être plus concernés ce matin par cette parole et cette promesse et qui ont envie de la voir se réaliser dans leur vie, à se lever maintenant et on va prier ensemble pour vous. On va ensemble demander à Dieu de vous visiter ce matin.